This Black Friday, the Perfume Shop are celebrating with our hottest deals ever. Like Eau de Lacoste Blanc EDT 100ml for only £24.99, saving a massive £25 off the RRP. Grab them before they're gone, just in time for Christmas. Offer ends 29th of November, savings off RRP while stocks last. Exclusions apply. For T's and C's, visit us online at theperfumeshop.com.
RMC. C'est la façon dont on a joué ce match-là. J'ai pas aimé, manque d'impuissance.
Ça m'arrive de le regarder, ça m'arrive d'aller au Parc Saint-Germain.
Tous les matchs, pour moi, c'est particulier. C'est-à-dire qu'il y a chaque vérité à son match.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, on est là dans l'After avec Coach Courbis, Jérôme Roten, Daniel Riolo, Oussem Moussaïef. Et oui, ça y est, enfin dans l'After, il y a un vrai joueur de tennis. Il n'y a pas un mec qui se la raconte parce qu'il a joué 2-7 le matin.
On en avait marre.
Parfois plus que 2-7.
Ouais.
On en avait marre quand même.
Ah, vous en aviez marre, on prend des mecs.
Gilbert, tu peux qu'en avoir marre.
Surtout que des boulards surdimensionnés.
Comment ça, on va perdre du temps et tu vas pas, je vois où tu vas aller.
Quand on parlait en régie, il me parlait, Jérôme me disait, ouais, physiquement, je suis un monstre. Je lui dis, mais arrête, tu vas me faire une Gilbert. Lui, il est bon qu'à courir. Il dit, Gilbert, tu lui mets un ballon dans les pieds, c'est une catastrophe. Imagine, il y a un racket. Voilà.
Donc, mais au moins, Gilbert, il assume.
Il n'a pas le choix. Il est nul.
Tu vas jamais jouer au tennis?
J'imagine, j'ai juste vu le foot déjà, ça suffit. Hein.
Gilles Simon est avec nous, bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Je ne réponds pas à ces attaques. Alors attention les gars, il y a 14 titres, il y a une 6ème place mondiale, c'est ça, hein, pour placer le bonhomme.
Voilà, ils font les timides alors que s'il n'avait pas été là physiquement, ouais mais moi j'ai déjà fait ça, moi j'ai
voilà,
des titres.
Exactement.
Les Jérôme et Daniel, moi j'ai déjà des titres. Moi,
ce sport qui rend fou chez Flammarion. Alors en fait, on peut se dire, tiens, pourquoi Gilles Simon est dans l'After, émission de foot? En fait, à la lecture du bouquin, on s'est rendu compte qu'il y avait des parallèles assez incroyables qu'on pouvait établir entre ce que tu dis et ce que tu as vécu dans le monde du tennis et ce qui se passe dans le foot. On va parler de formation, on va parler de choix des gamins pour le haut niveau, par exemple, tu en parles dans le livre, on va parler de philosophie générale de formation, du choix des entraîneurs, enfin bref, il y a plein de choses, mais j'aimerais d'abord que
de
tu
ce
nous...
fameux concept de talent.
Voilà.
Donc on parle énormément dans le tennis.
Je ne sais pas comment il s'exprime dans le foot.
Tu verras la façon dont tu vas en parler, je pense qu'on va reconnaître beaucoup de choses.
Oui, parce que dans tous les propos que tu... Moi, je t'ai entendu l'autre jour dans le Moscato Show, tu étais là aussi. Dans tous les propos que tu tiens, en fait, si tu enlèves le mot tennis et que tu mets le foot à la place, quasiment à chaque fois, ça colle. Alors peut-être que ça pourrait coller avec le vélo, le triathlon, je ne sais quoi, mais pourquoi ce bouquin d'abord ? Réexplique un peu, parce que pour ceux qui ont raté le Moscato Show l'autre jour, quel était ton projet de départ avec ce livre ?
Mon projet de départ, c'était de mettre en lumière un décalage que j'ai ressenti, moi, dans mes années de formation, avec un discours que j'entendais, qui était là avant moi, puisque je l'ai subi tout petit. Et voilà, j'ai subi pendant toutes ces années. Et puis, au début, j'ai juste pris ça pour un décalage. Donc, je me suis dit, c'est juste moi, donc tout seul dans mon coin. Tiens, c'est marrant, c'est ce qu'on se dit, mais moi, c'est pas vraiment ce que je ressens. Donc, bon, voilà.
Et parce que tu étais toi-même atypique, donc ce discours-là, tu n'entrais pas dedans. Donc, ça t'a permis de l'analyser.
Disons qu'en tout cas, je le ressentais pas dans un premier temps. Quand t'as 10 ans, 12 ans, enfin voilà, pour nous, moi c'est pas du foot, donc c'est du tennis. Mais voilà, moi j'ai grandi avec cette idée qu'on m'avait dit le tennis du futur, ça sera joué en service volé. On m'a dit c'est comme ça.
Il faudra être grand, baraqué, mettre des sacoches.
Grand, mais je suis ouais, pas comme ça.
C'est
le service volé. J'ai tout de suite senti que ça allait pas être pour moi. Donc tu te dis bon, mais j'ai quand même envie d'être joueur de tennis, donc tu continues de progresser. Mais t'as quand même ce décalage, tu vois, qui est là dès le début, parce que dès le début on te l'a affirmé assez tôt, tu vois. On a fait des formations là-dessus, on a fait des sélections là-dessus. Donc c'était dans ce.
Mais comment une
étude
à ce point-là dominante et écraser la réflexion globale sans qu'il y ait des choses différentes à penser que ce modèle-là?
Pour moi, c'était le but du livre, c'est ce que je me suis demandé. Je me suis demandé comment encore il y aurait un résultat indiscutable, en fait. Si tu es au bout de la ligne, je me dirais, c'est une bonne philosophie, elle marche tout le temps, enfin, ou en tout cas très fréquemment, et donc ça marche. Et là, je me suis dit, est-ce que un grand chelem dans le tennis masculin, est-ce que un grand chelem gagné depuis le début de l'ère Open, c'est un résultat
positif
suffisant? Ouais. Après, sans lui, mais pour une fédération de tennis qui a
moyens, et très riche, on ne le dit pas assez, mais le tennis en France a beaucoup de moyens.
On a les moyens de faire une bonne formation, on a des super outils. Et je me dis, est-ce que c'est suffisant? Donc après, c'est chacun qui, chacun va décider de si c'est suffisant pour lui. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, moi, j'ai grandi avec ce décalage. Donc voilà, des trucs que je ressentais pas forcément, parce que il y a ce que j'entends qui peut avoir du sens hein, sur le papier, mais après il y a ce que je sens quand je suis sur le terrain et que j'ai envie de gagner mon match. Si c'est ça, c'est autre chose. Et puis je vieillis, et puis bah je commence à être un peu plus sûr de moi parce que bah je commence à aussi à devenir professionnel, à rentrer, à avoir des points TP, rentrer dans les 100 premiers, rentrer dans les 50 premiers, rentrer dans les 10 premiers. Et toujours on dit mais ça c'est pas suffisant. Enfin c'est pas ça, c'est pas comme ça. Tu dis ouais mais bon finalement les gens qui me le disent, est-ce qu'ils ont fait mieux, est-ce que ça a mieux marché. Enfin voilà. Au bout d'un moment, tu commences à réfléchir à ces trucs-là et tu te dis, mais bon, bah, c'est moi le décalage. Puis tu commences à regarder les autres, tu te dis, ah, c'est marrant parce que lui, je sens qu'il a un décalage aussi. Puis lui aussi. Mmh. Puis un peu chacun dans son coin, mais sans, ouais. Sans le dire.
Sans trop le dire. Ouais.
Et au moment où tu t'en rends compte, et c'est, si j'avais un regret dans ma carrière, ce serait celui-là, c'est que le moment où tu t'en rends compte, c'est un peu tard. C'est un peu trop tard.
Si on reprend le livre dans l'ordre, qui, je le dis, est pas du tout genre biographie de sportif classique.
Ah non.
C'est une sorte. Je sais pas si on peut dire guide pratique en fait d'explication du tennis en l'occurrence, mais ça marche pour le sport en général. Et c'est assez rare qu'un livre écrit par un sportif soit fait sur ce modèle-là. Il est vraiment super accessible et très enrichissant d'un point de vue de la construction quand on aime le sport. Si je le reprends au départ, tu parles tout de suite ta présentation et un peu ton fil conducteur, c'est Federer. Exemple qui parle à tout le monde, même ici on est une émission de foot, mais tout le monde connaît Federer parce que c'est un des plus grands champions du sport mondial, du sport contemporain. Et tu dis à quel point, sans discuter évidemment de son énorme talent, ça fracasse la tête des gens quand on veut trop copier un mec aussi fort. Au foot, nous le parallèle, ça a été les années Barça, où tout le monde a voulu copier le Barça, même si tu n'avais pas les joueurs du Barça, les qualités du Barça, ou que tu pouvais bosser comme Guardiola. Pendant des années, ça a été ça. Et Federer, ça a fracassé la tête de pas mal d'enseignants du tennis. Et on en revient un peu à ce que tu disais avant, on n'a pas laissé la place à d'autres matières de développer son tennis.
Alors nous, ce qui a été intéressant, en fait, c'est que cette idéologie-là, elle n'est pas née avec Federer. Federer l'a validée. On a essayé de former Federer avant qu'il soit là. Et c'est ça qui était terrible. C'est comme si, pour vous, dans le foot, on avait décidé sur un papier que la meilleure manière de jouer au foot, c'était de jouer comme le Barça avant que le Barça le loue. Et puis tout d'un coup, vous avez une équipe qui arrive et qui gagne tout en jouant exactement. Bah là, du coup, on n'y coupe plus. Et nous, c'est ce qui s'est passé.
Mais on a toujours plus ou moins décidé, et dans le tennis, c'était un peu pareil, que le beau, l'esthétique, c'était une façon de jouer.
C'est culturel. C'est assez culturel, donc c'est pour ça que certains parallèles peuvent être faits avec d'autres sports. Moi, je maîtrise pas d'autres sports. J'essaie déjà péniblement de maîtriser le mien, donc c'est pour ça que je suis resté dans mon livre vraiment centré tennis. S'il y a des parallèles à faire avec d'autres sports, je le pense évidemment, mais je peux pas l'assumer, en tout cas pas l'écrire dans un livre et l'assumer comme ça. Mais par exemple, pour moi, en tant que spectateur et de foot, je vois nos deux coupes du monde gagnées et j'ai l'impression que la première qu'on a gagnée, elle est plus gagnée dans notre esprit que la deuxième, un peu plus avec la classe de jouer le Brésil, gagner 3-0 à la maison, etc., que la deuxième où finalement on est un peu plus solide, ça fait moins, mais tu dis on est moins fort. Et puis tu dis c'est quoi le résultat en fait? C'est quoi le but en fait? C'est de jouer avec la classe ou c'est de gagner? Moi je vois pas en quoi la première ou la deuxième, enfin pour moi on a été deux fois champion du monde, c'est génial,
magnifique,
c'est grandiose. Mais j'ai quand même l'impression que, bah, de battre le Brésil 3-0 à la maison en finale, c'est un peu plus la classe,
bien sûr,
que la suivante.
Non, mais il y a beaucoup de débats là-dessus sur l'esthétisme dans le sport, sur ce que retiennent les gens, sur le fait.
Même si le jeu en 98, c'était pas flamboyant, hein, c'était l'équipe
défensive. Non, mais c'était juste moi j'ai l'impression que la deuxième, mais c'est encore une fois, c'est en tant que spectateur, donc c'est mon avis et ça engage. Alors, que moi.
Je vais prendre des exemples.
La Belgique jouait mieux que nous. J'entendais, la Belgique jouait mieux, c'est plus plaisant, c'est truc. Puis tu dis.
Gilles et Jérôme, vous avez vécu un truc en commun.
C'est pas le tennis.
Non, mais vous avez vécu le syndrome du petit ado qui a failli passer à travers les gouttes.
Du petit maigre.
Parce qu'il avait pas le physique en fait.
Ouais.
Toi, t'as vécu ça au centre de formation.
Ouais, bah moi je le dis souvent, mais je suis pas le seul. Hein, et moi j'ai été sauvé en fait par le fait qu'à l'époque il y avait encore des formateurs ou des pré-formateurs, parce que c'était le cas à Clairefontaine, qui misaient avant tout sur la vision, la technique, plutôt que du physique, parce que quand t'as 13 ans, forcément, t'es repéré plus facilement, tu repères les mecs qui courent vite, qui sautent haut, qui gagnent les duels, et puis avec le ballon, même s'ils sont un peu maladroits, ils vont faire des différences, donc là tu dis, oh putain, lui il est bon, hein, il marque 3-4 buts par match, ou il fait telle différence.
Après, tu as le petit Frêle qui était mon exemple, par exemple, où tu essayes de trouver des failles. Et en effet, la lecture du jeu, essayer de simplifier le jeu, de se mettre d'entre les lignes.
Tu ne correspondais pas au canon de détection.
Et moi, j'ai été sauvé par ça parce qu'il y a un entraîneur, Francisco Filho, je le dis souvent, qui aimait ça, détecter ces joueurs-là. Et puis derrière, ça te laisse la place. Aujourd'hui, c'est vrai que quand tu vois les gamins qui passent, de plus en plus, dans le foot, à 13, 14, 15 ans, je suis pas sûr qu'à 13, 14 ou 15 ans, quand ils sont dans des structures déjà, des préformations, je te prends l'exemple du Paris Saint-Germain, et plusieurs fois je l'ai constaté en y allant, qu'en effet, le joueur qui est fin, qui est frêle, qui est petit, mais qui est très débrouillard, et ben, il est sur le banc. C'est pas lui qui joue.
T'as ressenti ça pareil, Gilles, dans le tennis, il y avait un moule un peu prédéfini?
Bah, nous, ça a été défini sur un style de jeu, donc en fait, c'est vrai que encore une fois, quand on nous a dit ça va être serve isolé, va falloir être grand, serrer fort, etc. Ça, bon, bah, naturellement, tu.
Oui, mais ça ne t'a pas empêché de percer finalement. Même non, si tu étais toujours un peu le mec à part, on disait, tiens, Gilles Simon, il joue autrement. On a l'impression qu'il joue avec sa tête plus qu'en mettant des sacoches.
Nous, ce qu'il y a, c'est qu'on a un avantage encore quand on est jeune, c'est que, bah, on joue dans les mêmes catégories. Donc, tant que les autres n'ont pas non plus trop grandi, etc., le terrain, bah, au début, on peut jouer, faire les points gagnants, c'est difficile. Finalement, dans les toute première catégorie d'âge, c'est presque plus une prime à la patience, parce que bah, personne n'a encore la maîtrise technique pour frapper des points gagnants, avancer, etc. Mais pour autant, c'est quand même ce qui est encouragé et valorisé. Et dans l'absolu, ça ne me pose pas nécessairement de problème, parce que c'est un style de jeu qui peut marcher. On l'a dit, bah, Federer le joue tous les jours, et ça a plutôt très très bien marché. Donc ce n'est pas de dire que ça ne peut pas marcher. Moi, ce que j'essaie de dénoncer là-dedans, c'est plus cet état d'esprit idéal qui va avec, que c'est toujours ce truc offensif... on colle vraiment beaucoup de valeurs avec ça. Une détermination, un engagement, une volonté qu'on n'aurait pas si on ne jouait pas ce style de jeu. Et moi, je dis, je peux jouer avec une grande détermination en défense, au moins aussi grande que celle d'un attaquant. Mais il y a quand même ça dans l'inconscient, dans le fait d'aller chercher le point, d'avoir envie d'y aller.
À partir de quel moment ? C'est beaucoup plus spécifique au tennis. Tous ceux qui ont joué savent que dans les clubs, à chaque fois, on nous bassinait. Toi, t'es un sale rameur. Dans le foot, non.
Dans le foot, c'est différent.
Dans le foot, on a accepté, parce que traditionnellement, les Français, à part dans les années 80, par la suite, ont plus gagné en ne proposant pas un foot, on va dire, panache. Donc, dans le foot, on a plus accepté les différents styles. Mais dans le tennis, ça a perduré. Et ce que dit Gilles est tout à fait vrai.
Ce qui est marquant dans le tennis,
amateur,
je sais pas si tu veux à t'entendre, c'est que il y a un style, en effet, qui est mis en place par la Fédé. Et que qui correspond un petit peu à tous les formateurs de France, parce qu'il n'y a pas qu'en Île-de-France que t'as des formateurs, t'en as partout. Et donc, ce style-là est suivi par tous les autres formateurs. C'est ça, ce que tu es en train de nous dire.
C'est un discours qui est très présent, qui est repris d'une manière générale, que j'entends aussi souvent dans les médias, parce qu'il a une certaine logique, qui s'entend bien, mais moi j'ai voulu simplement, dans ce livre, le creuser, en fait, le décortiquer, et voir à la limite le déconstruire à la fin, pour expliquer que, bah oui, peut-être, mais pas que. Il y a aussi d'autres choses, et si on encourageait, et si on valorisait d'autres styles de jeu, d'autres styles de développement dans le jeu, eh ben, on aurait des résultats, à mon avis, différents, parce qu'on perdrait beaucoup moins de joueurs. En
Daniel,
route.
Pour rebondir rapidement sur ce que disait Gilles, parce que je trouve ça super intéressant et ça fait écho à ce que disait aussi Jérôme. Il y a une expression que tu utilises dans le livre, c'est la quête du joueur ultime. Et nous, à un moment, au football, on avait ce que disaient Daniel et Jérôme, un joueur ultime à cette période-là. Le joueur ultime dans le football à l'époque de Jérôme, c'est pas le même que quand moi j'avais 15 ans, 13, 14, 13, 14 ans, c'est pas le même. Et je voulais savoir, alors dans le foot, on sait que c'est nous, on a ce qu'on appelle une DTN qui organise tout ça. Et je voulais savoir au tennis, qui décide du joueur ultime?
Le
qui
fameux...
décide du joueur ultime.
Alors on a le DTN aussi, donc sur
c'est
le papier.
Fournier,
sur le papier,
il ne rien. Donc peut-être qu'il s'est mis au tennis.
Sur le papier, et je le dis exactement avec ces mots-là dans le livre. Je dis sur le papier, c'est le DTN, et c'est ce que je disais dans le livre. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que il y a beaucoup de choses qui viennent entretenir ça au quotidien. Pas que le DTN qui décide du plan de jeu, les entraîneurs dans les clubs, les gens, les médias qui le répètent, les gens qui écoutent la télé. En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'un enfant. Un enfant, au bout d'un moment, il peut pas avoir le savoir à 12 ans, il peut pas avoir raison contre tout le monde, déjà sentir ce qui est mieux pour lui. Donc, a priori, s'il est bien en plus, s'il est bien élevé, il va écouter. Il va écouter ce qu'il se dit. Et quand il va entendre un truc de ses parents, de son entraîneur, du DTN, puis il l'entendra à la télé, etc., ça devient la vérité.
Ouais.
Et ce que j'explique, c'est qu'on n'a pas le temps de ces vérités-là. Si c'est vrai, très bien. Mais quand ça ne l'est pas, et c'est pour ça que j'en attaque certaines, c'est que si c'est pas vrai, il va mettre un temps colossal à s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on va travailler dans une mauvaise direction. C'est pour ça qu'on a souvent fait le reproche de vous travaillez pas assez. Je dis mais vous travaillez pas assez, mais personne n'est venu me voir m'entraîner. Donc, qui ouais, déjà, à chaque fois qu'on me dit on t'entraîne pas assez, mais pas une seule personne.
Venez voir ce que je vais
voir à l'entraînement pour pouvoir dire il s'est pas assez entraîné. Moi je dis je me suis certainement pas entraîné, peut-être pas dans la bonne direction ou pas assez. Pas assez dans,
mais,
dans
pas, dans dire.
Mais pas en volume. Nous c'était toujours le volume parce qu'en gros la direction était bonne puisqu'elle a été bien définie sur papier quand on a. J'imagine dans le foot, mais tout le monde fait ça. Allez, on fait son équipe type, donc on fait son équipe de rêve, on imagine. Ça, mais c'est du papier. Ouais. Après, il y a le terrain.
Et oui. Est-ce que, je vous pose la question à tous les deux, Jérôme et Gilles, est-ce qu'à un moment dans votre vie de jeune sportif, en cours de formation, est-ce que vous avez eu l'impression que finalement, on essayait de vous déformer ? Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui et non. En tout cas, on m'a encouragé à faire autre chose. Donc, est-ce que ça me déforme à la fin ? Peut-être.
Écoute, moi... mon style, ils peuvent pas me déformer. De toute façon, t'as un style. J'avais ce style-là, j'avais un bon pied, j'avais une bonne vision du jeu. Donc, forcément.
T'as les qualités, quoi.
J'ai énormément de qualités. Mais ça, c'est un avantage.
t'as fait toute ta carrière sur tes qualités.
Non, mais. C'est ça. En fait, c'est de travailler. Moi, je suis tombé sur des entraîneurs, mais il y en a d'autres qui vont travailler en disant, voilà, t'as des points faibles, on va travailler tes points faibles. Pour moi, quand t'as un vrai point fort, il faut travailler ton point fort. Pour être au-dessus, parce que c'est ce point fort-là, et moi ça a été le cas, qui m'a permis d'atteindre le très haut niveau.
Mais tu parles de ça dans le livre, du travail sur le point fort, sur...
J'en parle parce que je pense que dans les moments importants, on s'appuie sur ses forces. On regarde ce qui tient dans son jeu, et c'est une question que je me suis posée toute ma vie, parce que les deux logiques sont bonnes, en tout cas sur le papier. Entre, j'ai mon jeu, est-ce que je dois améliorer mes points faibles ? Est-ce que je dois encore plus travailler mes points forts ? Déjà, on a toujours envie de dire les deux. Parce que pourquoi l'un et pas l'autre ? Bref. Mais surtout, quand même, à l'arrivée, je me dis, dans un moment important, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ce qui nous rassure, on va s'appuyer sur ce qu'on fait de bien, sur là où on est en confiance.
Vraiment, donc,
mais quand on a eu un point faible, qu'on a certes travaillé, qu'on a mis à peu près au niveau, on est quand même à peu près sûr que c'est quand même celui-là qui va lâcher dans un gros moment de stress, parce qu'il n'est pas naturel, il n'est pas aussi solide que notre point fort. Alors nous, en tennis, on a vraiment des coups, donc un coup droit, le revers, etc. Donc c'est peut-être plus facile à identifier. Mais voilà, je pense que naturellement, travailler un point fort, c'est ce qui restera quand...
Attends, j'aimerais que le coach écoute attentivement, mais je sais qu'il est aussi attentif à ce qui est formation.
Oui, absolument. Puis j'essaie toujours de voir si on peut comparer ce qui est comparable. Dans ce que j'entends depuis le début de notre débat, là, j'essaie de faire des efforts pour ne pas être largué, puisqu'on veut comparer le tennis avec le football. Vous avez fait la comparaison tout à l'heure avec Daniel. Du Barça, mais le Barça, qui du Barça, Iniesta ou Pujol derrière. Donc là où j'arrive pas à suivre moi, et la question que je te pose, qui est pour moi la chose la plus importante, je vois un petit peu tout ton palmarès et j'en profite pour te féliciter. Est-ce qu'il était possible de faire mieux avec tes qualités et tes défauts ?
Alors c'est toujours une question difficile. C'est pour ça que quand j'ai abordé ce sujet, je l'ai abordé d'une manière générale. Je l'ai pas abordé dans le livre. Je parle très peu de moi. C'est pas une autobiographie. Et je l'ai abordé pour le tennis français masculin, enfin celui que je maîtrise le mieux sur les 60 dernières années, pour justement essayer de sortir de chaque individualité pour dire lui il aurait pu faire ci, lui il aurait pu faire ça. Au bout d'un moment, j'estime que sur 60 ans. Et ben finalement, on a eu des joueurs très différents, on a eu d'horizons très différents, de milieux sociaux très différents, avec des physiques très différents, et qu'on aurait dû gagner plus que ça. Donc, est-ce que moi, j'aurais pu faire mieux ou moins bien ? Moi, j'aurais certainement les deux. J'aurais pu faire différemment, ça c'est sûr. Est-ce que j'aurais eu un meilleur résultat ? Je sais pas. Par contre, je pense que dans l'ensemble, oui, on aurait eu de meilleurs résultats, parce que dans mon sport, la gestion des moments importants est vraiment cruciale. Un match de tennis, c'est vraiment très proche. C'est-à-dire que les ratios de points à la fin d'un match de tennis, ça va être du... je crois qu'il y a 4 matchs sur 5 à peu près, ça se termine dans un 53-47. En gros, c'est du 1 point sur 2. Et puis, ces quelques points-là, ça va être les points importants qui font que ça tourne d'un côté ou de l'autre. Et moi, je me dis, ces moments-là, on est bien sûr, il faut les jouer avec conviction, il faut les jouer avec détermination, etc. Mais est-ce qu'il suffit de se le dire? Fameux état d'esprit, comme on nous disait, ben non, mais là aujourd'hui, je vais y aller dans les moments importants.
Qu'on appelle le mental.
Le fameux mental pour nous qui serait inné de base. Moi, je dis non. Il va pas tomber comme ça juste quand on en a envie parce que là, là, c'est le moment. Alors, pour toi, dans le foot, là, c'est le moment où j'ai vraiment envie de mettre mon coup franc dans la lucarne. Oui, mais... Je vais y aller. Non. Malheureusement, non. C'est plus compliqué que ça. Je veux dire, ça se travaille, ça se construit, ça débarque pas comme ça. Et je me dis, pour moi, l'important dans ces convictions-là, pour revenir sur les points forts et sur là où on se sent fort, moi, ma conviction dans ces moments importants, c'était, je vais être dur à déborder, je suis capable de la remettre 25 fois dans le terrain, 30 fois dans le terrain, 40 fois dans le terrain, si donc possible. C'est ça ma force, c'est là où je me sens fort. Si je grandis avec l'idée que dans un moment important, ce qu'il va falloir être capable de faire, c'est envoyer une demi-volée dans la lucarne à chaque fois, on va me demander de faire un truc qui ne me correspond pas du tout dans un moment de stress. Et c'est ça que j'explique. Je dis, comment vous voulez qu'il y ait le résultat au bout? Et si je le tournais dans l'autre sens, un joueur pour qui c'est plus facile justement de prendre l'initiative, qui préférait jouer un point en attaque, prendre un risque, donc par exemple Federer, mais si je parlais dans ma génération, un Joe Tsonga ou etc., c'est comme si je lui demandais à Federer, à partir de maintenant, chaque point important, t'as plus le droit de tenter un service gagnant, un coup droit gagnant, tu vas me la mettre 40 fois dans le terrain. Et tu dois gagner les points importants comme ça. Tout le monde va dire, mais on va pas lui imposer ça. Et moi, c'est ce qu'on m'a imposé. On m'a imposé un truc qui ne me parle pas du tout.
Tu vois, ça veut dire
c'est
Roland.
C'est ça où je dis.
Ça veut dire que Marquinhos doit jouer derrière. Parce que dans la traduction, ça veut dire que Marquinhos
doit jouer derrière. Si on me demande de faire un truc dans un moment de stress qui ne me correspond pas, plutôt que de me renforcer dans ma conviction que c'est là où je suis bon, c'est là où je suis fort et c'est là où je suis dur à battre, je ne pense pas qu'on aura le meilleur résultat. Voilà, c'est juste ça.
Je vous donne à tous mon point de vue en ce qui concerne ce que j'ai entendu tout à l'heure pour progresser. Les points forts, les points faibles. Si j'ai à choisir, moi, je réfléchis une seconde, je suis pour perfectionner les points forts et laisser de côté les points faibles. Alors évidemment, comme l'a dit Gilles, si on peut faire les deux, évidemment, on va faire les deux. Mais si j'ai qu'un choix à faire entre les deux, je dis perfectionnons les points forts. La différence, par exemple, entre un gaucher et un droitier, si tu passes du temps à dire à un gaucher qu'il va falloir travailler son pied droit face à un mur pendant une heure et tout, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qui perfectionne son pied gauche, qui est déjà bon par rapport à un droitier? Et ça me paraît être beaucoup plus intéressant.
Autre thème dans le livre, Daniel, donc, souvent, il y a quoi? Il y a la pub?
Oui, et ensuite, on parlera du reste, bien sûr, notamment aussi des structures fédérales. Parce que alors, avec la fédé de tennis et la fédé de foot, ils pourraient se faire des colloques, les deux, là, vraisemblablement, il y a des trucs là aussi à partager. Et il y a d'autres thèmes également. Dans quelques instants, on revient avec Gilles Simon dans l'After. À tout de suite.
This Black Friday, the perfume shop is celebrating with our hottest deals ever. Like Marc Jacobs Splash Rain 100ml EDT for only £19.99. Saving a massive £18 off the RRP. Grab them before they're gone, just in time for Christmas. Offer ends 29th of November. Savings off RRP while stocks last. Exclusions apply. For T's and C's, visit us online at theperfumeshop.com.